Allez, 10h04, minutes, hein, on rentre dans la dernière heure de cette saison de Trémil Sport, mais rassurez-vous, hein, on restera avec vous cet été sur le Tour de France et puis les Jeux Olympiques. Justement, au niveau des Jeux, on voulait faire un petit coucou à Jérôme Brouillot, hein, qui était Fargusien, qui a beaucoup travaillé en partenariat avec nous.
Il est resté pendant pas mal d'années dans le village d'Auferjus.
Voilà, c'est ça. Et qui est maintenant donc en Nouvelle-Calédonie, directeur de la départementale de la jeunesse et des sports. Donc, je sais qu'il écoute souvent Herve par internet. Donc, s'il nous écoute, on lui fait un petit coucou. Voilà. Allez, on va maintenant parler de l'Euro, messieurs. On retrouve l'équipe au complet. D'abord, Guy et Simon qui étaient avec nous déjà au Perret. Guy, bonjour.
Bonjour, Philippe.
Alors, cette semaine de l'Euro, les Allemands étaient vos favoris. Vous restez en lice.
Je reste. Je l'ai toujours dit. Finale, Allemagne, Espagne.
Et victoire au bout.
Allemagne.
D'accord. Ok, bah les paris sont pris. Hein. De toute façon, c'est du 50-50. Hein.
Oui, c'est vrai.
Hein, c'est du 50-50. Et puis, on a retrouvé nos autres consultants avec nous. Donc, d'abord, Jean-Paul, qui a participé aussi à l'émission sur les jeux. Jean-Paul, on va maintenant parler
ballon. Rebonjour.
On va parler ballon rond. Donc,
on reparle ballon rond.
Vous avez continué à suivre les matchs assidûment.
Tout à fait. Mais même en Allemagne, je les ai regardés.
Bien sûr.
Et alors, en Allemagne, c'est de la folie. Hein. Ils ont des drapeaux partout. Et bon, c'est ma petite équipe fétiche.
Ouais. D'accord. Aussi. Et puis, celui qui était avec nous aussi en semaine pour parler de l'équipe de France. Bon, ça a tourné court. C'est Bibi Moreau.
Bonjour Philippe.
Comment ça va donc sur cet euro?
Écoutez, moi j'ai perdu sur toute la ligne au niveau des pronostics.
Mais tant mieux, c'est ça.
Et à chaque tour, de toute façon,
la
à chaque tour.
Du sport.
Voilà, c'est je ça. Suis passé par toutes les équipes. Bon, il y a beaucoup d'équipes qui m'ont impressionné à chaque tour et puis je les ai donné favoris pour le tour suivant et malheureusement elles sont tombées.
Alors pour être très complet, on reviendra très en détail sur tous les résultats, sur tout ce qui s'est passé durant ces trois semaines, mais globalement, comment vous avez trouvé au niveau du jeu cet euro? Allez, à tour de rôle, Jean-Paul.
Alors, on a des matchs qui sont extrêmement plaisants.
Oui,
et puis, le match suivant, c'est de l'embêtement total. Mm-hmm. Je pense que c'est dû aussi à la très longue saison.
Et
ne faudrait-il pas changer les dates de l'Euro?
Platini l'a suggéré.
Oui, mais c'est une très très bonne suggestion.
Ouais.
Parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des moments où les joueurs sont extrêmement fatigués. On a assisté à des petits matchs. Un match sur deux à peu près.
Oui. Et une équipe qui a toujours du mal à rééditer son exploit.
Oui, sauf l'Espagne.
Oui, sauf
qui
l'Espagne.
Qui a réussi à peu près tous ses matchs sans problème. Les autres, à chaque fois, on a vu les Russes excellents contre les Pays-Bas. Peut-être le plus beau match. Le plus beau match que l'on ait vu et qui était complètement apathique.
Complètement méconnaissable.
Le match suivant.
Ouais. Archavine, inexistant.
Ah, complètement. Transparent.
Archavine, l'homme du match.
Transparent.
Ouais.
Et en plus, il n'y avait pas un marquage absolument phénoménal sur lui.
On va détailler tout ça, mais enfin, ça paraît assez incroyable. Guy, vous partagez cette opinion?
Oh, tout à fait, oui.
Ouais.
Moi, je n'ai pas trouvé les matchs sensationnels.
Oui, on vous sentait un peu plus modéré la semaine dernière. Hein. Vous disiez que... D'ailleurs, je crois que la moyenne des buts, il faudrait regarder, elle est quand même un tout petit peu supérieure à celle qu'il y avait eu il y a 4 ans au Portugal.
Oui, mais il y a eu des matchs où ce n'était pas des matchs... Je sais pas, ils avaient peur. Il y avait quelquefois, ils avaient peur.
Il y a eu des beaux matchs aussi, quand même.
Oui, il y a eu quelques beaux matchs.
C'est vrai que sur les 4 quarts de finale, il y en a 2 très beaux et 2 mauvais. Quoi.
L'Allemagne, il se qualifie.
Bon, parce que l'Italie fait déjouer ses concurrents.
Oui,
donc,
on
ne pouvait pas assister à un grand match.
Mm-hmm. Bon, Turquie-Croatie, c'était pas terrible.
Et puis, on a vu une Croatie qui était quand même assez petite aussi.
Oui, qui a raté beaucoup de buts d'ailleurs.
Oui, puis beaucoup de choses.
Par contre, 2 superbes matchs, Portugal, Allemagne, et puis alors, Russie,
c'est certainement
pour moi, c'est le sommet de l'Euro jusqu'à maintenant.
Donc pareil, l'ennemi-finale, bon, c'est vrai que c'est pas l'équipe qui méritait peut-être de gagner contre la Turquie qui s'imposait, mais enfin le football c'est souvent ça.
Ouais, en deuxième période, parce qu'en première période, les Allemands ils ont été un petit peu lymphatiques, je dirais.
Ils ont été bousculés par les Turcs.
Ils se sont fait bousculer, puis les Turcs se sont écroulés en deux.
Ouais, physiquement c'est
normal. Je dirais que c'est presque normal. Ils prennent un but, je crois, à la 51 et 52e minute, en début de deuxième période, donc là après c'est très difficile.
Alors une chose que j'ai beaucoup remarqué quand même dans cet euro, c'est les énormes erreurs défensives, parce que si on regarde Allemagne-Turquie, je crois que sur les 5 buts, il y en a 3 ou 4 qui sont sur des grosses erreurs défensives.
Il y en a 3.
3, ouais, 3. Du gardien, puis de la défense,
des fautes
de marquage.
Et puis alors, les mains de 2.
Et même le dernier but, la défense, elle est aux fraises, la défense turque. Bon, il y a peut-être la fatigue physique aussi.
Oui, je pense à ça, je pense à la fatigue physique.
Là, c'est un beau but quand même.
Oui, superbe but, mais enfin, ils mettent la défense à la faute.
Ils sont à la ramasse, ils sont complètement à l'opposé. Mais sinon, il y a 3 fautes de gardien. Lehmann, il a 2 buts pour lui, ils ont de la chance, l'Allemagne, de se qualifier parce que.
Oui.
Et puis Rustu, il fait un match sensationnel. Et puis,
Mais on s'aperçoit aussi peut-être que maintenant on se retourne vers un football qui privilégie aussi
l'offensive.
Tant mieux.
Et c'est bien.
Oui, ça c'est le régal des temps parce que le système Jacquet avec 10 derrière et 1 devant, voilà. Ça a un peu failli. Donc maintenant on arrive dans un football très offensif. Oui.
Pendant des années on privilégiait les défenses béton et tout ça, et puis on avait des jeux pauvres. Je veux dire que bon, maintenant on privilégie peut-être un peu plus l'offensive et ça donne un meilleur spectacle. Et, c'est les équipes les plus opportunistes qui arrivent à passer. On a l'exemple type de l'Allemagne, quoi.
Ouais, c'est vrai que sur cet Euro, quand même, souvent, ce sont les attaques qu'on poussait donc les défenses à la faute. Enfin, il y a eu aussi des fautes naturelles de défense, comme par exemple le match Turquie-Allemagne, Lehmann, naturellement, le gardien qui sort mal.
Lehmann, il s'écarte de son but, alors que s'il se met le long du montant, le but, il ne marque pas. Après, ils ont une chance inouïe, c'est de marquer le troisième.
Oui, mais c'est ça, la force des Allemands, c'est que même quand ils sont dominés, qu'ils ne jouent pas très bien, ils ont cette force mentale collective qui est assez remarquable. Parce que, comme le disait Lizarazu sur RTL, eux, ils ne s'embarrassent pas de fioritures. S'il faut tirer, ils tirent. Ils ne se posent pas de questions.
Ah, c'est grosso modo la seule équipe qui tire à 30 mètres tout le temps.
C'est ça.
Par contre, l'instant où ils ont une opportunité, ils tirent.
Nous, on va essayer de faire le dribble de trop, à chaque fois.
Par contre, Balak n'a pas été bon. Hein.
Non.
Ce match-là,
moi, je pense qu'il est comme Ronaldo, il a un peu raté son mondial, Balak. Par contre, on a vu des très bons Podolski.
Il marche le but, qu'il gagne 0,
si j'avais bien le prononcé. Mais moi, Podolski, c'est un très très bon joueur. Ouais.
Même là,
qui est peu utilisé en plus au Bayern.
Évidemment, il est passé à travers son match. Il marque le bon au dernier but, mais sinon.
Oui, plus de difficultés sur ce match-là.
Turquie-Russie, des outsiders.
Oui, enfin bon, pour revenir sur Balak, je trouve qu'il a fait un bon championnat d'Europe, même s'il n'était pas au top de sa forme. Mais bon, comme on disait tout à l'heure, la succession aussi des matchs, la fatigue, on ne peut pas dans ce style de tournoi.
Mais on attend des grands joueurs, des grandes choses.
Oui, voilà. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas aussi exigeant aussi, Ronaldo, on l'a encensé, on a dit, ça va être le joueur... ça va être le joueur de l'Euro.
C'est vrai.
Faut peut-être il sera ballon d'or quand même. Je pense à la fin de la saison, il sera quand même ballon d'or.
Peut le contrer au niveau du ballon d'or.
Il a gagné
ses marques de noblesse. Cependant, son championnat, il a le championnat d'Europe. Par contre, Ronaldo, on se doutait qu'il aurait eu un marquage culotte, plus un couverture, ce qui fait que pour évoluer, c'était extrêmement difficile pour lui.
C'est ça. Bon, à partir du moment où on met quelqu'un bien serré dessus,
tu touches une bille après.
Dans le football, c'est un peu le principe. Dès l'instant où quelqu'un est bon, il faut le museler de façon à ce qu'il n'apporte pas le jeu à son équipe.
Alors, ce qui est quand même drôle dans ce Euro, c'est qu'on va avoir un final classique entre deux grosses nations de foot. C'est pas souvent arrivé sur l'Euro, parce que autant on a des finales classiques sur un mondial, des France-Italie, des France-Brésil, des Brésil-Italie, des Brésil-Allemagne, on retrouve des grosses nations. Là, c'est vraiment deux grosses nations, Allemagne-Espagne, alors qu'il y a 4 ans, c'était un Grèce-Portugal, République tchèque-Allemagne. Allemagne en 96, c'était des finales assez
inattendues. On a eu le Danemark avant, on a eu la Suède.
Là, c'est des grosses nations.
Là, on a deux grosses nations. Deux grosses nations.
Pour un Euro, on a eu quand même des outsiders, comme les Turcs et puis les Russes.
Il faut pas s'attendre.
Les Turcs, j'y ai cru longtemps, parce que quand ils ont marqué le deuxième but sur l'erreur de Lehmann, je pensais que les prolongations allaient être très dures. Mais en fin de compte, non. L'Allemagne a su s'en sortir. L'Espagne, elle mérite d'être là.
Ah oui, c'est vrai.
Quand on voit le carré final, il restait quand même, mis à part les Turcs. Parce que les Russes, on peut pas les négliger non plus. C'est quand même des grands joueurs de foot. Il restait quand même que des grosses équipes. Je veux dire que
on attendait peut-être les Pays-Bas, le Portugal en demi-finale, voire même la France.
Moi, j'avais une grosse option sur le Portugal parce qu'ils étaient quand même solides, bien structurés. C'était une belle équipe. Mais ça a failli devant l'Allemagne. Donc.
Non. À mon avis, ce soir, il ne faut pas s'attendre à un grand match.
Alors, justement, j'allais vous poser quelques questions. Comment peut-on voir ce match? C'est vraiment l'opposition de style.
Oui, c'est deux positions et pour moi, je pense que tout le monde va jouer derrière en attendant une ouverture éventuelle.
Même les Espagnols?
Les Espagnols,
peut-être pas.
Dans la mesure où ils n'ont pas Villa, qui n'ont pas leur pointe, qui vont faire peut-être rentrer Fabregas, comme on a vu sur le dernier match, où il y a beaucoup de création, je pense que l'Espagne va tenter le football sur l'offensive. Ils n'ont rien à gagner s'ils restent derrière. C'est pas leur système de jeu.
Ils ont failli se faire piéger par l'Italie, mais c'est vrai que l'Italie, ils sont toujours.
Mais l'Italie fait déjouer les autres.
C'est
le principe italien.
Je pense qu'on va. Je pense qu'on va. On va avoir le droit à un jeu ouvert. Je veux dire que on est quand même avec en présence de deux nations qui veulent absolument gagner, parce que c'est quand même. Et je pense qu'on risque d'avoir un score 3-2 ou bon, un truc comme ça. Moi, je,
les grandes transversales allemandes.
Voilà.
Oui, parce que les Allemands, ce qu'ils ont de bien, c'est qu'ils utilisent très très bien le terrain.
Bien les
c'est très bien quadrillé. C'est, ils ont deux joueurs qui mangent la craie, comme on dit, de chaque côté. Ils utilisent toute la largeur du terrain.
Ouais.
Alors que l'Espagne, c'est plus en passe courte, mais ça va aussi très vite. Il y a beaucoup d'imagination dans
l'espagnol. C'est peut-être plus allégé quand même le jeu espagnol que les Allemands.
Oui, puis ils vont mettre le feu. Puis on n'est pas dans la configuration, on n'est pas du style.
Puis attendez, on va avoir une équipe latine contre une équipe anglo-saxonne.
Voilà,
là, on a deux caractères complètement différents également.
Oui. Et puis, comme les défenses ne sont pas terribles, les Allemands ne sont pas terribles, ça peut laisser des brèches.
Non, c'est assez lourd, oui, dans les axes, dans les défenses axiales, oui, c'est assez lourd. Donc, si ça peut donner un 7-5, pourquoi pas, ou un 7-6,
ça serait bien.
Je serais pour. J'y crois pas trop, mais.
Moi, je vois bien un 3-2 ou 3-1. Bon. Mais contrairement à vous, je verrais bien l'Espagne gagnante.
Ouais, vous pensez c'est l'année de
l'Allemagne. Celle qui mérite, c'est l'Espagne, mais celle qui est dans mon cœur, c'est l'Allemagne.
Moi aussi.
Oui, bon, moi, je parle.
On va encore déjouer ton pronostic.
Oui, mais enfin, la différence, c'est que là, je suis neutre, parce que moi, ma favorite, ça fait longtemps qu'elle est rentrée chez elle. Mm-hmm. Mais je crois beaucoup en l'équipe d'Espagne cette année.
Sur l'Euro, elle le mérite. C'est l'équipe qui le mérite.
C'est vrai qu'ils ont eu moins de faiblesses que l'Allemagne, si on regarde bien les matchs
L'Allemagne, ils sont passés par.
Voilà.
Ils ont eu deux coups de chaud. Hein.
Ils ont fait des très bons matchs contre la Pologne, par exemple, et puis contre le Portugal. Et puis, alors, des matchs où ils n'ont pas été très bons.
La Croatie, par exemple.
Contre l'Autriche, ils ont été juste suffisants.
Moyens.
Ouais, pour assurer l'essentiel. Ouais.
Contre la Turquie, puis, ils ont assuré en fin de partie. Ils sont passés deux fois près de la correctionnelle.
C'est habituel un peu à l'Allemagne, ils avaient procédé un peu comme ça pour la Coupe du Monde.
C'est vrai que quand on regarde quand même le passé de l'histoire allemande, c'est vrai qu'ils ont souvent gagné des matchs comme ça.
C'est là où on se rappelle la phrase de Lineker. Quoi.
Ouais.
Le football se joue à 11, mais à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne.
Ouais. Bon, c'est un peu changé ces dernières années.
Heureusement.
Mais là, ils sont en train de retrouver justement leur vertu du passé.
Oui, parce qu'on les a vus dans leur mondial, ils ont quand même fini 3e.
Ouais,
et puis là, ils vont être en finale. Donc, c'est une équipe qui renaît. Hein.
Oui, avec une belle équipe au mondial.
Oui, moi j'aimais bien.
Il faut qu'ils revoient la défense. Parce que là, la défense, elle est quand même pas. Elle n'est pas terrible.
Oui, mais ça, c'est partout. Dans cette rouille.
Moi, je n'ai pas vu de défense absolument phénoménale. Les Russes, la charnière était très lourde. Chez les Portugais, c'était pareil. Les Français, on n'en parle pas.
Oui, c'est vrai.
C'était lourd. La Russie avait ses mêmes problèmes avec ses deux grands gabarits au milieu. Et puis, si ça fait finir des buts, moi, j'aime autant que les défenses ne soient pas non plus tout le temps géniales.
Oui, pour avoir des buts, c'est vrai. Mais...
Donc la finale, ça sera ce soir. Il y a eu des équipes outsiders. Il y a d'autres équipes qui vous ont marqué, même si elles sont rentrées à la maison.
Ah moi la Russie.
Là aussi,
sur son système de jeu face aux Pays-Bas, moi ça m'a fait rêver. Quoi. J'ai vu un match absolument phénoménal.
C'était Saint-Pétersbourg.
J'ai pris du plaisir. Même ma femme qui regarde très peu le foot, y a pris du plaisir. Alors c'est pour vous dire que c'était un super match.
Ouais.
Et puis bon, j'ai vu aussi les Pays-Bas qui étaient pratiquent un beau football.
Contre l'Italie, la France.
L'Italie, la France, ils ont été très bien. Puis après, ils sont tombés contre une nation qui était plus forte qu'eux à ce moment-là. Mais ils n'ont pas fermé le jeu. C'est une chose aussi agréable à regarder.
Et moi, une chose qui m'étonne, c'est comment on peut passer d'un extrême à l'autre, être la Russie qu'on a été contre les Pays-Bas et puis être inexistant contre.
Alors moi, je me pose énormément de questions. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que les produits pris
On va pas aller jusqu'à là.
Je dirais pas. Non, mais je me pose énormément de questions parce que on voit des joueurs sur un match qui peuvent cavaler, mais on a l'impression qu'ils peuvent faire deux matchs sans être fatigués et puis qu'ils trois jours après ne sont plus capables au bout d'un quart d'heure.
Est-ce que c'est pas l'expérience d'une grande compétition? Je veux dire qu'à partir du moment où on fait un grand match contre les Pays-Bas, est-ce qu'on s'assoit pas un peu sur ses acquis?
On se met dans le rouge.
Voilà, non, mais est-ce que
peut-être aussi.
Voilà, on est les meilleurs du monde.
Peut-être.
Je pense que c'est le manque d'expérience.
C'est un peu comme
voilà, tout à fait.
Comme le disait Jean-Michel, quoi.
Je pense pas que dans un championnat d'Europe, on puisse avoir la grosse tête après avoir gagné un match. Parce que faut pas oublier, les Pays-Bas, c'était avec l'écart. Il reste demi et finale.
Je reste persuadé, même s'ils ont bien joué, que les Turcs, ils sont restés sur leur lancée de l'euphorie, quoi. Parce que ils sont passés au fur et à mesure. Quand on gagne un match dans une compétition comme ça, tout de suite, on se dit, bon, allez, on est capable, on prend conscience
qu'on peut aspirer à la victoire.
Mais après.
Mais sur leur dernier match. Ils ont voulu prouver que malgré qu'avec une équipe très remaniée, avec les suspendus et les blessés, qu'ils avaient quand même une équipe capable d'aller un petit peu plus loin.
Ils se bougent.
Ils se sont bougés.
Ils ont ce qu'on appelle mouiller le maillot. Quand même.
Mais bon, moi je serais un petit peu d'avis de notre ami là. Il y a une ou deux nations, les Russes et les Turcs, j'aimerais quelques doutes. Maintenant, je peux me tromper, mais c'est... Là aussi, je rejoins notre ami, là. Ouais. Il dit qu'ils ont fait un beau match. Et puis, le match après, ils sont complètement à la ramasse. Mmh. Ça a été pareil pour les Turcs. Hein.
Oui, d'autant plus que les Russes avaient 24 heures de plus de récupération que les Espagnols, quoi. Oui. Ça paraît incroyable, quoi.
Ils ont joué une surprise, oui.
Ils ont joué qu'une période, hein, les...
Ouais.
Comment... Merde, je cherchais le nom. L'équipe, là...
Ils ont joué qu'une période, qui?
Les Russes.
Oui.
Ils ont joué qu'en première période, après ils ont complètement été inactifs.
Ouais, mais même
ça a été limite. Ils étaient limite.
La première mi-temps, ils étaient quand même besogneux.
Ouais, ils étaient limite quand même.
Ils ont passé leur temps à courir après le ballon qu'ils ne maîtrisaient jamais. Et si vous regardez.
En deuxième période, ils ont été.
Chez les Russes, il n'y a pas eu trois passes consécutives, à peu près.
Même en première, ils étaient limite.
Mais ils ont beaucoup couru après le ballon, ce qui les a encore plus épuisés. Alors le taux de fatigue, s'il était déjà grand, ils ont couru énormément, ce qui fait que la fin du match c'était de la passe à 10.
Donc, très souvent, c'est naturellement la récupération hein, qui fait la différence dans une compétition comme celle-là.
On va dire ça.
Ouais, il y a plus de surprises quand même, hein, à l'Euro qu'au Mondial, où on l'a dit au Mondial, c'est aussi parce que l'épreuve dure un peu plus longtemps.
Est-ce que les surprises à l'Euro ne sont pas dues à la fatigue et au trop grand nombre de matchs faits par certains joueurs?
Oui, c'est une épreuve qui est rapprochée hein, par rapport au Mondial, où on peut s'étendre dans le temps.
C'est vrai.
Et on a le temps de récupérer.
Il n'y a que trois semaines qui suit le dernier match de championnat. Mmh. Alors surtout si les équipes ont fait le championnat d'Europe, leur Coupe de la Ligue, leur Coupe de. Interne au pays, plus leur championnat, maintenant c'est des championnats à 20 équipes. Il est vrai que le taux de fatigue, il doit avoir un taux de saturation assez important.
Ils parlent de faire aussi le championnat d'Europe à 24 équipes maintenant. Alors,
ouais.
Il va falloir trouver des créneaux, hein, parce qu'on change de date, Platini veut changer de date.
Des matchs en plus,
pourquoi pas.
Ça fait 3 matchs par jour, quoi.
Mais
voilà, pour les deux.
Il va falloir qu'ils jouent la semaine. Hein. Pour arriver à faire, comme tu disais, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et les championnats et autres.
Il va falloir trouver aussi des pays avec des stades, parce que je crois, j'ai cru comprendre que le prochain championnat d'Europe se déroulera en Pologne, a énormément de retard sur l'infrastructure.
24 équipes, ça fait du monde en plus. Hein. Mm-hmm. Là,
Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer les compétitions, justement
C'est du mercantilisme, ça, c'est pas... C'est le principe de l'argent, quoi.
Ouais, c'était comme celui qui avait proposé le mondial tous les deux ans, quoi. Le mondial doit rester exceptionnel, comme les Jeux Olympiques, d'ailleurs.
Hein. C'est le principe
c'est
de l'exception.
Quoi. C'est ce qui rend l'événement encore plus beau, plus fort. On ne le banalise pas, quoi.
Le problème qu'on risque d'avoir, c'est trop de foot, tu le foutes, hein.
Oui, là, il est temps que ça finisse, parce que ceux qui sont pour foutre, ils en ont marre.
Oui, mais après, il y a le Tour de France,
il y a des télécommandes sur lesquelles vous pouvez changer la chaîne. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il y a le Tour, il y a les Jeux après, donc...
On est encore pour deux mois tranquille.
Tour de France.
Après, ceux qui sont pas en train, il faut qu'ils reprennent notre boulot.
Et après, il y a la saison qui apprend. Comme ça, on est tranquille. Très bien, on va faire un petit flashback, un petit retour sur les groupes. Comme ça, ça va nous permettre d'analyser les différentes prestations des équipes. Alors, les Portugais qui avaient battu les Turcs 2-0, qui avaient battu les Tchèques 3-1, et puis qui ont quand même perdu 2-0 contre les Suisses. Vous avez trouvé comment ils avaient fini premier du groupe A?
Enfin, moi, les Portugais, j'en avais fait une équipe plus ou moins favorite du dernier quart. Bonne prestation dans le groupe, dans leur groupe d'élimination, et puis après, ils ont un petit peu disparu.
Ils sont tombés aussi sur une Allemagne qui a fait un très grand match contre eux en quart de finale. Hein.
En championnat d'Europe, il n'y a pas grosso modo de petites équipes après. Donc dès l'instant où vous avez passé votre poule qualificative, il est évident que vous allez tomber sur un gros. Et j'étais un peu déçu quand même. Puis leur gardien de but n'a pas été d'une brillance extrême.
Et puis on rappellera que les Turcs ont fait quand même deux matchs fabuleux sur ce premier tour. Hein. De Buzyn et puis surtout la République tchèque 3-2 avec deux fins de match complètement folles. Ça a été une des particularités de ces joueurs turcs.
Les Tchèques n'auraient jamais dû être battus sur ce match-là.
Moi, je suis là.
À 2-0, jamais ils n'auraient dû prendre 3 buts. Jamais. Les Tchèques devaient passer cette poule. Je ne sais pas s'ils auraient été loin après parce que c'est une équipe assez lourde, mais jamais n'aurait dû perdre ce match.
Oui, les Tchèques qui avaient donc battu la Suisse 1-0, et donc du coup les Tchèques ils ont quand même terminé 3e, ils se sont fait coiffer sur le fil par les Turcs, et puis les Suisses pays organisateurs 4e.
Oui, mais vous savez que la Suisse et l'Autriche, les deux organisateurs, n'auraient jamais passé leur poule.
Comment vous l'avez trouvé le groupe A finalement?
Oh, deux équipes fortes.
Ouais, ouais. Point. Deux équipes pour dominer les autres.
Voilà, hein. Tout à fait.
C'était pas le plus équilibré. Puis, tiens, on s'est aperçu que le groupe C, le groupe de la France, il n'y a aucun rescapé. Hein.
Non.
C'était le seul groupe où il n'y avait aucun rescapé en demi-finale.
Ils avaient appelé ça le groupe de la mort. Ouais, hein. Ils sont tous morts les uns après les autres.
Voilà, donc dans le groupe B, c'était pas un groupe terrible, donc on a vu que ce sont les Croates qui ont fait une grosse impression, mais qui après se sont un peu éteints. La Croatie qui avait battu l'Autriche 1-0, qui avait fini donc en tête de ce groupe, qui avait battu l'Allemagne 2-1 et qui avait battu la Pologne 1-0.
C'est une déception, c'est la Croatie.
Ouais, hein, parce que ils ont raté beaucoup d'occasions quand même contre
les Turcs. Ils ont su jouer à peu près deux matchs, ils n'ont pas su jouer les autres après. Grosse déception.
Mais c'est dommage parce que c'est une belle équipe la Croatie. Oui. Enfin, moi j'y croyais. Hein, bon.
C'est un beau football.
Ouais, c'est un beau football. Hein.
Il va falloir faire attention à eux maintenant.
Ouais. Ils alternent peut-être le bon et le moins bon, ça dépend. Hein. Donc les Allemands qui avaient battu les Polonais donc 2-0, ça c'est un beau match, hein. Belle équipe allemande là contre les Polonais. Ensuite ils ont été un peu moins convaincants donc les Allemands puisqu'ils ont battu les Autrichiens 1-0 et puis on rappellera que l'Autriche et la Pologne ont fait match nul 1-1 finalement donc les Autrichiens terminent quand même peut-être devant les Polonais, mais enfin
les deux équipes qui devaient être éliminées ont été éliminées normalement là.
Ouais. Alors le groupe D, on reviendra sur le groupe C, comme ça me permettra de faire la transition avec l'équipe de France. L'Espagne qui avait déjà battu la Russie 4-1, psychologiquement, ça n'a pas joué dans les retrouvailles.
Moi, à mon avis, ça a certainement joué, c'est obligatoire. Maintenant, je pensais que les Russes auraient quand même surmonté mieux que par rapport à la prestation, aux deux précédentes prestations qu'ils avaient faites, je pensais qu'ils auraient surmonté ça, mais non.
Non.
Ouais. L'Espagne qui a fait effectivement le match, la prestation la plus complète, puisqu'ils ont battu donc les Suédois 2-1 et puis les Grecs 2-1. Donc, effectivement, c'est vraiment l'équipe qui a été la plus complète.
L'Espagne n'a jamais perdu, a toujours pratiqué son football et est au top final. Enfin, c'est l'équipe qui mérite.
Ouais, qui s'est imposée devant donc la Russie. La Russie, quand elle avait vu battre la Grèce 1-0 et puis la Suède 2-0. Une équipe qui montait en puissance après chaque match, hein, et devant les Suédois, elle a été gagnée encore plus largement.
Et qui était un plaisir à voir jouer.
Absolument. Ah, ouais. Et puis, on rappellera aussi la victoire des Suédois devant les Grecs 2-0, les Suédois qui terminent 3e du groupe, les Grecs 4e. Bon, finalement, ils sont à leur place, ils sont à leur niveau.
Oui, il y a une logique.
Oui,
dans ce groupe-là, oui.
Alors ensuite, on va rappeler quart de finale, donc là, deux beaux quarts de finale, l'Espagne qui bat le Portugal 3-2, et puis ce match assez exceptionnel des Russes qui ont battu. Donc,
c'était l'Allemagne qui avait battu le Portugal, pas l'Espagne.
Oui. Ah, pardon, oui. Donc c'est pas un lapsus. Hein. donc l'Allemagne qui avait battu le Portugal 3-2, et puis la Russie qui a battu les Pays-Bas 3-1 après prolongation, c'était les deux plus beaux matchs, et puis ce match fermé, par contre, entre l'Italie et puis l'Espagne. Donc,
quelle 0-0, déception.
4-2 au tir au but, les frères ennemis, finalement, les Espagnols qui, au bout de 82 ans, je crois, finissent par battre l'Italie.
Oui, bah, tout arrive, hein, le signe indien est enfin vaincu. Mais... petit match. Hein.
Oui, match. Oh là là.
Très décevant.
Hein. À vous dégoûter du football. Oui, c'est un peu ça.
En fait, on est sûr maintenant, c'est dommage à dire, mais bon, depuis quelques années, on sait que quand il y a un match qui oppose l'Italie à une autre équipe,
C'est difficile d'avoir.
Généralement, on n'assiste pas à un beau match, quoi. C'est le résultat.
Sauf contre les Pays-Bas, le match était sympa. Enfin, on y reviendra. Hein. Et puis, naturellement, donc les Turcs auparavant qui avaient battu les Croates 1-1 après prolongation. Donc, ils avaient gagné les pénalties 3-1 au tir au but. Mais bon, c'est vrai que les Turcs ont eu cette particularité de finir très fort leur match, quand même.
C'est ce qu'on a vu, parce que quand les Croates ont marqué leur but, c'était il y a 2-3 minutes de la fin.
Ouais. Est-ce qu'ils méritaient ça, le match?
Les Croates avaient beaucoup mieux joué.
Oui.
S'est dit, c'est plié. Non, c'est arrivé. Et ensuite, le mental qui a joué. Le fait d'avoir égalisé les prolongations, on a vu les Croates qui s'affaissaient lentement. Et c'est le mental qui a fait gagner. Et quand il y a eu les tirs au but, je me suis dit, les Turcs vont gagner parce que les Croates n'y étaient plus.
Oui. C'est vrai.
Ils se cherchaient.
Quand on revient, de toute façon, comme ça, au score, psychologiquement, on aborde les tirs au but dans les meilleures conditions possibles.
Oui.
Hein, ça arrive très souvent. Hein. 9 fois sur 10, l'équipe qui revient et qui égalise.
C'est qu'une question de mental, le tir au but à ce moment-là.
Oui. Donc, les demi-finales, on l'a vu, hein, le mental a été encore plus important pour les Allemands qui ont battu les Turcs 3-2, et puis donc l'Espagne qui a battu la Russie 3-0. Alors, on arrive dans ce fameux groupe C, qui est le groupe La Mort, il n'est plus resté d'équipe. Les Pays-Bas étaient pourtant sortis largement en tête, avec peut-être aussi des conditions d'arbitrage un peu favorables. Hein, qui...
Un peu chanceuse sur certaines actions.
Ouais. Ils ont battu l'Italie donc 3-0, ils avaient battu la France 4-1, ils étaient quand même sortis du groupe, et puis ils avaient joué le jeu en battant les Roumains 2-0. L'Italie donc est sortie quand même difficilement, fidèle à son habitude, donc deuxième de ce groupe. Ils ont concédé le nul contre la Roumanie 1-1, et puis ils ont battu donc l'équipe de France 2-0. Et puis naturellement, la Roumanie et la France qui avaient fait 0-0, on termine dernier de ce groupe, derrière les Roumains. Ça va nous permettre donc...
Ça a déjoué complètement mes pronostics. pronostics, mais voilà. Je pense que mon ami Bibi en face, ça a dû également déjouer les siens, puisqu'on avait les mêmes idées.
Ça va nous permettre justement de faire la transition avec l'équipe de France. Finalement, cette équipe de France, on a vu qu'elle était très mal préparée, il n'y avait pas de défense, hein, une défense qui était à la ramasse, comme on dit.
Il y a eu des oubliés.
Il y a eu des carences.
Il y a eu des choix de jeu qui offensive. N'ont pas été excellents. Il y a eu des remplacements.
De communication entre les lignes.
Oui. On n'a pas l'impression que tous les joueurs sont les meilleurs amis du monde. Maintenant, on sait certaines choses depuis. Et puis, on a vu du coaching qui n'a pas été non plus absolument transcendant. Quoi.
La base de notre défaite, c'est déjà dans les vestiaires. Hein. Oui. Enfin, aux entraînements.
C'est un mélange de tout.
Hein. Mais oui,
c'est un mélange de tout. Oui.
Alors justement, on en parlait avec Guy la semaine dernière. J'ai posé une question quand même à Guy. On se rappelle que Raymond Domenech, il avait demandé à ce qu'on aménage le calendrier, qu'on avance la finale de la Coupe de France, comme ça avait été fait il y a 2 ans pour la Coupe du Monde. Il n'a pas obtenu gain de cause. Donc, on est arrivé pratiquement avec des joueurs qui sont sortis de la Ligue des Champions puis de la Coupe de France qui sont arrivés comme ça alors que le stage de Tigne était pratiquement fini. Est-ce que ça n'a pas joué contre l'équipe de France?
Oh, ça a certainement joué, mais bon, on jette aussi tout l'opprobre sur Domenech. Il faut penser aussi que sur le terrain, il y avait 11 joueurs qui auraient pu faire certainement autre chose que ce qu'ils ont fait par moment.
C'est-à-dire qu'il n'a pas eu les moyens de ce qu'il avait demandé quand même. Il avait demandé une phase de récupération un peu plus importante, Domenech.
Il avait demandé ça, oui, mais il ne l'a pas obtenu. C'est vrai que la finale de la Coupe de France était également très tard.
Benzema coupé son terrain. Ils n'ont pas fait
la préparation, la préparation.
Ouais. Malouda, Anelka qui sortait de la finale de Ligue des Champions, c'est pareil quoi, avec Evra. Donc voilà, ils sont arrivés comme ça, c'est en grosse préparation. Premier match, il était contre l'Équateur à Grenoble. Est-ce que ça n'a pas joué?
De toute manière, on a le résultat qu'on a sur la lancée de nos 3 matchs amicaux, je l'ai dit la semaine dernière, je le maintiens.
Oui. Alors, ensuite, avec des joueurs qui étaient blessés, qui n'ont pas beaucoup joué...
Quelle erreur! On sélectionne Vera qui est blessé, on fait venir Flavini parce que le début de la compétition n'était pas fait, donc il avait le droit de changer, il fait venir Flavini, il ne le fait pas jouer.
Moi, je pense
et Vera est constamment envoyé Vera là, sur le banc des remplaçants. Oui. Et qu'il soit là à la rigueur, mais il ne fallait pas le sélectionner.
Je pense que le gros problème de Domenech, c'est d'avoir fait jouer en équipe de France des joueurs qui n'étaient pas titulaires dans leur club et qui ont très peu de compétition.
Ça aussi.
Oui. Je pense que c'était un des gros problèmes.
Pour une compétition comme ça, de toute façon, on a beau avoir un groupe, ça se construit. Enfin, je ne sais pas, déjà à partir du moment où le groupe s'entend pas,
non.
Dans les vestiaires et tout, un entraîneur, il rassemble ses forces. Voilà, c'est lui le chef. Il stimule ses. Oui. Je veux dire que, mis à part les petits pépins, il faut qu'on arrête de trouver des excuses à l'équipe de France.
Non, on essaie de chercher des explications.
Je veux dire que c'était pas un groupe uni. Ce qui a fait la force à l'époque d'Aimé Jacquet, c'est qu'il avait son groupe uni. Voilà. Quand il disait à Pires, Robert, maintenant tu muscles ton jeu, tu y vas, on sentait que c'était lui le patron. C'était écoute, t'as intérêt à écouter ce que je te dis, les conseils que je te donne, sinon ça va pas le faire. Et voilà, c'était ça, c'était l'amitié, ce qui a permis à notre équipe de France d'être flamboyante jusqu'à présent. C'était d'être unis. Et en plus, ils avaient la jeunesse, le jeu, il y avait tout. Bon, là, on arrive en fin de cycle. Ouais. C'était pas.
Parce qu'en 2006, il y a eu les mêmes problèmes du groupe au départ. Et puis, ça s'est bien arrangé après.
Oui, mais bon.
Il y a la victoire qui est dedans.
Et c'était. Ouais,
avant la victoire, il faut y aller.
Et puis, je pense qu'il n'a pas dû savoir passer outre certaines animosités qu'il y a entre joueurs, que l'on connaît maintenant, puisque ça a été dévoilé. Moi, j'ai écouté une certaine émission où j'ai appris énormément de choses, très surprenantes. Mais je pense qu'il faut passer outre. D'ailleurs, on ne peut pas s'aimer tous les uns les autres. Mais il faut aussi savoir vivre ensemble et travailler ensemble parce que eux, c'est leur travail.
C'était la grande force d'Aimé Jacquet.
C'était sa grande force. Et je pense qu'il n'a pas su. Voilà.
Et puis, ça ne date pas de l'Euro pour voir que l'équipe de France, elle était un peu en déclin. Quand on voit tous ces derniers matchs, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Moi, je suis retombé sur terre très vite. Je vous ai dit, on aurait peut-être dû faire l'impasse, qu'on aurait peut-être dû reconstruire une équipe. Voilà, costaud, il y a 2 ans, et puis de se dire, on fait l'impasse sur championnat, parce que on sera pas prêt pour la Coupe du Monde, parce que on va repartir à zéro. Non, on a beau avoir des grands joueurs, voilà.
Oui, on va en parler.
Je pense qu'on aurait dû faire l'impasse. Moi, pourtant, j'y croyais à notre équipe de France, hein. Mais, après ce premier tour, je me suis dit, oh là.
On a les impressions, faut s'en méfier, parce qu'on a eu les mêmes impressions avant le mondial 98, et puis on a été champion du monde. On a eu les mêmes impressions avant le mondial de 2006. On arrive en finale, on est battu de pas grand chose à l'arrivée. Donc là, on pouvait se dire, tiens, l'histoire va, elle va se répéter quoi.
On pensait qu'elle allait se répéter, mais elle ne s'est pas répétée. J'avais ce souci-là. Moi, je pensais que ça allait se répéter tel quel. Mais il faut aussi penser que le football, c'est une sinusoïde. Hein. Des fois, on est en haut, des fois, on est en bas. On ne peut pas être constamment le premier.
C'est un cycle, ça tourne. C'est comme dans les comme dans les championnats.
Ouais, disons que ce sont des joueurs qui, cette fois-ci, ont vraiment l'orage. Hein,
c'est oui, c'est ça, l'orage.
Les gars, voilà, ils ont pratiquement...
On a eu des joueurs qui...
Bon,
voilà.
Bon,
mais attends.
Si, non, mais quand on voit... Bon, on parlait des Turcs tout à l'heure, ou bon, des équipes comme ça, dans une compétition telle que l'Euro, où, bon, bah, c'est des jeunes qui arrivent, qui n'ont rien gagné, qui disent, voilà, ils passent un tour, ils passent deux tours, hop, pourquoi pas, voilà. Il faut y croire.
C'est cette notion du plaisir qui disparaît.
Voilà.
Mais attends, nous, on avait Benzema, on le fait pas jouer. C'est le meilleur buteur du championnat de France.
Non, mais là-dessus aussi,
moi je l'ai vu jouer deux fois, il a pas été brillant.
Oui, il était rincé en fin de saison, Benzema.
Oui. Je veux pas tirer peut-être sur l'ambulance, mais bon, moi je reste persuadé, et pourtant j'étais derrière mon équipe de France, mais Raymond Domenech n'est pas l'homme de la situation, c'est tout.
Alors justement, bah, pourtant, Raymond Domenech, il va rester derrière les dernières nouvelles.
Mais ça doit être décidé le 3 juillet, je crois.
Il sera reconfirmé officiellement.
Je viens de lire le journal de ce matin,
sous certaines conditions, donc il sera reconfirmer sélectionneur,
ouais, chose
malgré qui... le fait
qu'ils sont obligés. Ils sont obligés.
Il y a une indemnité, non ?
Ils viennent de lui faire, avant l'euro, lui en faire signer un avenant à son contrat.
Donc, encore une fois, ils sont obligés parce que c'est une histoire d'argent.
Oui.
Et ben moi, j'inviterai personnellement tous les supporters de l'équipe de France qui se déplacent, comme nous on fait régulièrement, à payer notre place, à soutenir notre équipe parce que nous on est des vrais supporters, hein, à boycotter. Comme ça, on va voir si on commence à boycotter une équipe qui est nulle dans une compétition parce qu'il y a un entraîneur incompétent. Voilà. Faut qu'on boycotte. Alors, la Fédé, elle a intérêt à payer les indemnités à M. Domenech, mais qu'on le remplace, je veux dire qu'on peut pas rester comme ça.
En tout cas, il doit repartir. Hein.
C'est se moquer de la tête, des Français et qui plus est des supporters, quoi.
Tout à fait, mais je suis d'accord avec toi.
Je veux dire qu'à un moment, il faut arrêter. Ouais.
Hein. Il va falloir redonner quand même confiance à un groupe. Ça va être ça le plus dur, parce qu'on en parlait la semaine dernière. On disait comment il peut redonner confiance à un groupe. Il va repartir, mais il faut redonner confiance.
Là, ce matin, j'ai lu sur le journal. Maintenant, tout le monde veut boycotter Deschamps. Non, on l'a encensé il y a une dizaine de jours, Deschamps, maintenant ?
Non, le problème de Deschamps, c'est qu'il a voulu prendre la place bien avant.
Il y a
avant.
Un lobbying quand même de France.
Il y a eu un lobbying des joueurs de 98, et on a entendu après le match des Pays-Bas, Deschamps qui voulait déjà prendre la place alors que la personne était toujours là. Je pense qu'il n'a pas su tenir sa langue. Moi, j'aime pas trop ses comportements.
Bon, c'est vrai, retour. Mais d'un autre côté, s'il venait...
C'est un peu décevant.
S'il venait à la tête de l'équipe de France...
Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas bon entraîneur.
S'il vient à la tête de l'équipe de... Oui, vas-y.
Je pense que, bon, d'exprimer ses idées ou ses intentions, bon, Deschamps est un mec compétent. Je sais pas s'il sera plus compétent que Domenech, mais bon,
s'il
veut... À mon avis, oui, mais s'il veut prendre la place dès le lendemain de l'équipe de France...
Il y a le ménage à faire.
C'est pas de prendre la place qui m'a gêné, c'est de la façon dont il s'est exprimé, de la façon dont il a fait le forcing pour pouvoir
se mettre en place. Il a été poussé.
C'est le côté un peu décevant. Pour moi, il y a deux entraîneurs qui sont géniaux, c'est Blanc et Wenger, mais ils viendront pas.
Oui,
ils sont pris.
Oui, puis la somme d'argent, il va falloir que la Fédé
aille. De toute manière, il a été poussé, Deschamps, pour dire ça. Il est poussé, puis de toute manière, s'il venait à la tête de l'équipe de France, il ne peut pas, à mon avis, il ne peut pas entraîner avec des joueurs avec qui il a joué.
Oui, puis c'est pas quelqu'un de la DTN, est-ce que ça peut poser problème. On en parlait la semaine dernière.
Mais la DTN, c'est pas non plus Dieu.
Oui, mais enfin, quand on prend les derniers entraîneurs, c'est la DTN. Ils viennent.
Ils viennent
parce qu'on reste dans le moule et puis on est configuré dans le moule. Mais on peut pas faire passer la DTN.
Pour Deschamps, bon, je pense que c'est plus de la maladresse.
Oui, moi, je pense que c'est de la maladresse. C'est ce qui me déçoit dans le personnage.
Ça m'a plus déçu, moi, qu'au moment où on était tous en train de pleurer, un entraîneur de l'équipe de France se dise écoutez, maintenant, je vais me consacrer au mariage avec Estelle. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est là où
il
ça
a voulu
montre...
dédramatiser.
Oui, moi, dédramatiser. On peut pas. On peut pas. Je veux dire que faut arrêter sa vie privée. C'est sa vie privée. C'est un excellent joueur de théâtre, Monsieur Domenech. Bon, il nous a prouvé sur les derniers événements, les grands événements, qu'il n'était pas à la hauteur. Je veux dire que on était derrière lui. Moi, j'ai jamais aimé Domenech, mais j'étais derrière lui. J'ai toujours minimisé. Basta. Là, fallait qu'il fasse ses preuves. Il les a pas fait. Basta. Qu'il admette la défaite. Je veux dire qu'on remet un autre entraîneur. Après, je laisse le libre choix à tout le monde. Voilà. Mais on était sur une lancée. On avait une culture football en France. Depuis quelques années, on gagnait des trophées. On était bien. On avait un bon niveau.
On a raté quand même beaucoup d'épreuves ces dernières années. Le Mondial 2002, l'Euro 2004, là, l'Euro 2008. Ça commence
à faire
quand même.
L'Euro 2008, ça a été l'humiliation. Hein. Je veux dire que bon.
Alors, comment en 2008
quand on regarde son palmarès avec le nombre de matchs joués, le nombre de matchs gagnés, Bon, on peut
mais
dire.
Mais bon, espoir, il est toujours avec
oui. Mais par contre, c'est vrai que dans son palmarès, on n'a pas de grande épreuve gagnée.
Et le pire, c'est qu'on a quand même des grands joueurs. En
bah oui.
Si on n'avait aucun grand joueur, mais là, on a quand même des grands joueurs.
Parce qu'on est le pays qui formons le plus de nouveaux joueurs.
Alors, on a vu qu'en Italie, par exemple, hein, une série de pénaltys de tirs au but, ça peut changer la face d'un entraîneur.
Ah bah, Donadoni, passé à la trappe.
Donadoni, vous savez.
C'est fou quand même. Une série de tirs au but, quoi. C'est-à-dire que si l'Italie gagne, il est encore là, quoi.
Ah oui. Les Italiens, c'est la gagne. Hein.
Vous, remarquez, Aimé Jacquet, si on était battu au tir au but contre fini. L'Italie, c'était fini aussi.
Bah oui.
Quitter la France. Donc, tiens, bah justement, on voulait avoir un petit coucou à Aimé Jacquet, qui a quitté la région il y a quelques semaines. Et puis, un petit coucou aussi pour Henri-Émile, qui va le faire aussi dans quelques mois. Et comme on les retrouvera au Stade de France le 12 juillet prochain, on a travaillé avec eux pendant 10 ans, en parfaite collaboration. Donc, on voulait avoir une petite pensée pour eux ce matin, parce que ça reste un moment fort quand même. Hein.
Le Mondial 98.
Ouais.
Ah oui. Hein, ça a été l'explosion de joie. L'explosion de joie.
Voilà. Ça nous refait un peu de bien. Daniel, vous l'homme de l'Olympisme, vous suivez le foot?
Oh bah,
avancez-vous près du micro.
Mais néanmoins, je m'intéresse un petit peu de loin. Bon, je m'occupe également un peu pour le rugby, puisque j'ai eu la chance à une certaine époque, c'est moi au moment du rugby, qui ai dépiauté avec du riz, le fameux diamant que c'est Coubertin qui avait quand même tracé. Puis, ça remonte déjà à loin, pas mal de temps. Mm-hmm. Mais néanmoins, il faut reconnaître que sur le plan footballistique, personnellement, j'entends quand même un petit peu moins que nos amis collègues.
Ouais.
Néanmoins, je reste toujours dans la lignée, j'écoute. J'essaie de donner mon petit grain de sel, quand c'est permis, mais c'est de plus en plus de mal pour moi de voir ce qui se passe aujourd'hui sur le plan du ballon rond, alors que nos amis Clément et autres que je connais depuis longtemps, évidemment, nous les autres, on est un petit peu en retrait du circuit.
Oui, il y a eu des points communs d'ailleurs avec le rugby, puis le mondial, ce qui s'est passé au mondial, les choix de Laporte, ils ont été autant critiqués, se rappelle des intervenants.
Ah oui, bien sûr.
Ils l'ont autant critiqué que les choix de Domenech, se rappelle qu'on lui reprochait d'avoir fait confiance aux anciens Pelous, Ibanez, c'est pareil là.
Ah oui, c'est exactement pareil. On est dans la même lignée.
Ouais, bien
mais je ne sais pas si en France on va comprendre un jour comment il faut opérer.
Oui.
C'est
vrai que c'est peut-être. On parle souvent des sommes d'argent, mais enfin, les Allemands, ils gagnent autant d'argent que nous, les Italiens gagnent autant que nous, les Pays-Bas, ils en gagnent autant que nous. Ils ont des titres. Donc
nos joueurs français gagnent autant qu'eux, parce qu'ils jouent dans les clubs étrangers.
Non, mais souvent, j'entends, moi, dans mon entourage, c'est parce qu'en France, on gagne trop d'argent, c'est pas vrai.
Van
der Sar, les Pays-Bas, ils jouent dans Manchester. Les Italiens, ils ont des salaires
encore. Les Espagnols ont des salaires phénoménaux, ils ont la culture de la gagne aussi.
C'est pas une question que d'argent, quoi, c'est une question de culture.
Lorsque vous arrivez sur un terrain, vous ne pensez pas à l'argent que vous allez gagner.
Je pense qu'en principe,
on arrive pour gagner. On met les pieds sur la pelouse, c'est pour gagner.
Oui, en principe, oui.
Alors on dit qu'il y a les jeunes qui perdent leur envie, mais enfin, Torres et Fabregas, ils n'ont pas perdu leur envie de jouer.
Non, mais
c'est vrai qu'on a vu des garçons côté français comme Benzema, ça c'est quand même quelque chose qui me choque. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de joie.
Non, je trouve assez tristounet pour un jeune.
Moi, ça me choque quand même.
Oui, ça fait bizarre.
Moi, en fait, ce qui me gêne, je veux dire que je demandais même pas, enfin si j'y croyais, mais je voulais même pas une victoire en finale pour l'équipe de France. Si l'équipe de France avait déjà été en quart de finale, et je veux dire que c'est normal qu'on finisse dernier de notre groupe. Je veux dire,
même si c'est le groupe de la mort,
on aurait peut-être pas fini dernier avec
en demi-finale, la France prend 4-1 contre les Pays-Bas. Bon, là, c'est déjà, on fait partie des 4 meilleures nations. Bon, voilà, on a pris 4-1, belle équipe. Mais là, c'est de la manière. Là, on a été ridicule.
Mais pour tous les spécialistes européens, on était dans le dernier quart.
Sans parler.
C'est pas le fait d'avoir été éliminé, c'est le fait qu'on n'a rien montré. Quoi.
On n'a rien montré. C'est pour ça que je suis déçu de toute façon.
Comme en 2004 aussi, parce que s'il n'y a pas Zidane contre l'Angleterre, on ne va pas en quart de finale. En 2004, c'est pareil.
Ça tient des fois à un cheveu. Mais là, le cheveu, il n'est pas.
Est-ce qu'il ne manque pas aussi ce joueur d'exception, ce leader, ce meneur qu'on a dans toute grande équipe?
Il y en a un qui sera meneur, à mon avis, c'est Ribéry.
Vous pensez qu'il a le mental,
ouais,
le profil?
Oui, il a, peut-être. Mais c'est un gagneur. Moi, je l'aime pas.
C'est un gagneur. En plus, il crée du jeu.
Ah oui,
il en veut.
Et il en veut.
Mais est-ce qu'on n'a pas justement ce défaut à chaque fois? On dit voilà.
Est-ce qu'on est obligé de jouer avec un grand créateur, c'est ça?
Ouais, non, mais puis à chaque fois on dit voilà,
ah bon,
il y a Vieira.
Ah bon, bah alors, il fallait me le dire. Hein. Donc on a notre ami Jean-Michel au téléphone. Jean-Michel?
Oui, est-ce
voilà.
Que vous m'entendez?
Très bien. Alors on y va pour le golf.
D'accord, bien on y va pour le golf. Eh bien, on est donc en direct de 51 Yvelines. Et je voulais commencer par le président, mais je le vois très occupé. Donc je vais attaquer directement avec ma petite surprise matinale. Monsieur Privé, s'il vous plaît, vous pouvez venir à mes côtés. On va démarrer avec vous. Voilà. Alors, monsieur Privé, vous allez vous présenter parce que vous êtes vraiment un cas dans cet univers de golf. Vous êtes, on peut dire, dans le milieu artistique, aussi bien écrivain que sculpteur. Et surtout, vous abondez d'idées, alors qu'on pourrait dire farfelues, mais finalement, quand on se penche bien sur le problème et quand on observe bien ce que vous faites, c'est pas du tout farfelu.
Bien, merci de me recevoir tout d'abord. Bien, farfelu, si, sûrement aussi un petit peu, parce que je me prends pas au sérieux sur un sujet qui est quand même un sujet sérieux. Le golf est pour moi une école de vie. Enfin, je veux dire, je trouve que le golf apporte plein de valeurs au niveau du respect de soi-même, des autres, du terrain, du matériel, de l'environnement. Et déjà, c'est un point sur lequel j'aime bien insister, parce que c'est parce que permettre de c'est un accès qui ça permet d'accéder à toutes ces valeurs là ce sport. Alors sinon moi ben effectivement j'ai eu envie de faire des installations, des assemblages, des sculptures, puisqu'il y a dans mon travail aussi bien des objets soudés, des clubs en fer soudés, que des tiges géants, que des objets rapprochés pour faire passer des messages, pour rappeler aux golfeurs, lui donner sans arrêt des leçons d'humilité, leçons de sourire, parce que c'est quand même une lutte terrible, ce golf, une lutte contre soi en fait, hein, parce que l'aboutissement c'est de s'améliorer à tout moment, et c'est aussi l'aboutissement de l'homme dans la vie quand même, donc c'est très intéressant. Et puis voilà, j'avais été président de l'association sportive dans mon club, et j'avais mis une annonce pour récupérer du matériel usé, cassé, et quand ma femme en a eu marre d'avoir des tonnes de matériel, qu'elle était proche du divorce, j'ai décidé de la débarrasser de ce matériel en faisant ses sculptures et ses assemblages.
D'accord. Bien, alors, c'est la question qui m'a brûlé les lèvres. Êtes-vous golfeur vous-même? Vous venez de nous le dire. Alors, par exemple, je prends au hasard dans votre bouquin, je prends une sculpture, enfin, une structure. Il y a 3 bouteilles de vin et vous avez remplacé le liquide par des tis. Alors, des tiges de différentes couleurs. Et vous avez réalisé l'exploit d'avoir des légendes faites par des journalistes, faites par des golfeurs, faites par des présidents d'associations, etc. Et il y en a un qui dit « Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'adresse ». Je trouve ça très bien, quoi. Expliquez-nous un peu ça.
Bien, donc j'ai en 2 ans réalisé 70 œuvres. C'est vrai que les œuvres conceptuelles demandent pas beaucoup de temps, hein, puisque en plus j'ai la chance d'avoir les idées qui me viennent, et après il suffit de les mettre en application. Et le conceptuel, c'est le rapprochement des objets. Et après, j'ai eu aussi envie, et grâce aussi à la fédération qui me soutenait beaucoup en m'hébergeant au golf national, ainsi que donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance que M. Barbaret et que Olivier Roche soient très sensibles, le directeur du Golf National, soient très sensibles à mon travail. On s'est très bien entendu. Et il est vrai que ça m'a donné au bout d'un moment, par rapport aux commentaires de la presse, très positifs sur mon travail, j'ai eu envie de faire un ouvrage. Et quand j'en ai parlé à la Fédération, tout le monde a été enthousiaste et ils m'ont encouragé en me passant une précommande de ce livre pour l'Open de France, pour le distribuer au VIP de l'Open de France. Et je me suis dit qu'il fallait absolument enrichir ce livre en plus de mes 62 œuvres. Et j'ai eu cette idée, parce que vous avez les photos des œuvres comme vous les voyez, mais il y a aussi les noms. Ça a été tout un travail pour trouver le nom, parce que tout a du sens quand même dans ce livre. Et après, j'ai eu l'idée de faire soutenir le livre par mes amis journalistes, mes amis golfeurs, des personnalités, enfin que des golfeurs, auxquels j'ai demandé de légender toutes mes œuvres. Et donc dans ce livre, effectivement, vous avez entre 4 à 7 légendes par page, qui fait plus de 300 personnes, 300 légendes dans cet ouvrage. Et là, ça permet de ressentir toute la sensibilité des golfeurs en rapport du message que j'essaie, moi, mon message que je fais passer dans mon œuvre, et leur interprétation. Et il a également été traduit donc en anglais, ce qui lui donne encore une autre dimension, et pour l'Open de France, ça me semblait indispensable.
Un excellent bouquin, un excellent cadeau pour tout golfeur. Je crois qu'un golfeur ne peut pas passer à côté de ça, c'est pas possible.
Bon, merci beaucoup. Sinon, il y a possibilité de voir tout mon travail, mes œuvres, toute ma revue de presse, tout ça qui commence à être importante, puisque hier j'ai eu les honneurs de Canal+, hier après-midi, à leur émission sur l'Open de France, où ils ont longuement présenté mes sculptures et mon travail et mon livre. Et je peux me permettre de donner l'adresse de mon site si
on est là pour ça.
Donc moi je m'appelle Hubert Privé, et j'ai décidé d'appeler tout mon concept le golf en privé. Et mon site, c'est tout simplement www.golfenprivé.com. voilà.
D'accord. Bien, bah écoutez, merci d'être passé nous voir, et moi je suis ravi, mais vraiment ravi d'avoir fait la promotion de votre promotion, parce que encore une fois, c'est un superbe cadeau pour tous les golfeurs, quoi. Un superbe cadeau.
Merci bien, monsieur. Au revoir.
Au revoir, merci. Voilà, Philippe, c'était un petit clin d'œil que je voulais faire à ce monsieur qui a vraiment un potentiel d'idées exceptionnel quant à la conception du golf, et qui tourne ça toujours en dérision. Et c'est très agréable de voir ce bouquin, et surtout de voir ses œuvres. Moi, j'ai eu la chance d'en voir quelques-unes sur le stand ASO, et ça a vraiment un intérêt majuscule.
Ah ouais, c'était vraiment sympa.
Bien. Alors, Monsieur Georges Barbaret, président de la Fédération française de golf, qu'on ne présente plus, est à mes côtés, et je le remercie. Alors,
bonjour.
Vous êtes un président heureux aujourd'hui.
Oh, oui, qui ne le serait pas, hein. Qui ne le serait pas, à différents titres. D'abord au titre sportif, c'est quand même une fédération sportive, d'abord. Donc nous avons des joueurs internationaux de tel niveau que ça place l'Open de France parmi les meilleurs tournois européens, donc, au niveau sportif. Ensuite, au niveau du parcours, ce parcours de l'Open de France à Saint-Quentin, les joueurs me l'ont dit tout au long de ces 3-4 journées, c'est un des meilleurs parcours qu'ils aient joué. Ce qui pour nous est
pas rien,
c'est pas rien, quoi. Donc on est très fiers de ça. Et puis troisième raison d'être heureux, bien ce sont les spectateurs, plus nombreux que l'an dernier, et en particulier les 1000 jeunes qui viennent de toutes les régions de France, qui étaient là hier. Et je trouve ça formidable, tous avec la même casquette, ça met de l'animation.
Tout à fait.
Oui, je suis un président heureux.
Bien, alors on va se recentrer un petit peu sur la compétition elle-même. Et il se trouve que c'est un jeune, et ça encore c'est un signe, c'est un jeune espagnol qui pointe en tête à la veille de ce dernier tour, qui s'appelle Pablo Larrazabal, et qui qui pointe à -11, précédant, tenez-vous bien, les loups, comme disait Pierre-Michel Bonneau de l'équipe ce matin, Colin Montgomery, qui n'est pas un inconnu, à trois coups, Søren Hansen, David Lind et Lee Westwood. Donc vous voyez un petit peu ce plateau en studio, vous voyez ce final auquel nous allons avoir droit aujourd'hui. Et de surcroît, si Pablo Larrazabal, ce jeune espagnol, arrive à se hisser au-delà de la pression, on va voir quelque chose d'exceptionnel.
Ben, je crois que le plateau final, c'est-à-dire les joueurs que vous venez de citer, pour l'Open de France des airs modernes, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, d'Open de France, on en est au 103e ou 104e, jamais on a eu un pareil plateau le dernier jour. C'est-à-dire des joueurs, vous avez bien fait de citer le plus jeune, et j'allais dire le plus ancien avec Montgomery. Donc c'est-à-dire, en quelque sorte, le jeune qui va être croqué par le caïman, quoi. Mais c'est pas fait.
Non, c'est pas fait.
C'est pas fait. Donc c'est une finale de rêve, quoi.
Ah oui.
Une finale de rêve.
Tout à fait.
Donc j'espère que nous aurons beaucoup, beaucoup de spectateurs, et ça je crois que oui, de plus. Parce que vous parlez de ceux qui sont en tête, mais il faut parler aussi de nos Français qui sont au milieu de tableau.
Qui sont six. Hein,
voilà, six.
Qui ont passé le cut.
Ce qui est pas mal. Mm. Et je regardais partir tout à l'heure Thomas Levet ou Raphaël Jacquin, je peux vous dire que les gens les suivent, hein, mm-hmm. les supportent.
Oui, oui, tout à fait.
Donc c'est très bien. Je trouve que les joueurs français qui tous peuvent gagner un majeur, tous, mm-hmm. Ici au national, ils sont un peu stressés parce que ils veulent trop bien faire en ouais. France, quoi.
Nul n'est prophète en son pays.
Voilà,
en son pays, c'est ça. Hein.
Mais enfin bon, surtout il faut suivre cet après-midi. Ça va être des moments époustouflants.
Ouais.
Oui,
ouais. Je le crois aussi.
Ouais.
Bien, j'aimerais aussi vous interpeller sur le décalage de l'Open de France à partir de l'année prochaine. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que nous risquons d'avoir beaucoup d'Américains sur cette Open de France.
Oui, jusqu'à maintenant, vous voyez bien, donc il y a l'Open de France cette semaine. La semaine prochaine, il n'y a rien en Europe. Mmh. Et après, le Scottish et après, le British. Mmh. Donc les Américains ne viennent pas parce qu'ils disent pourquoi venir là, une semaine d'arrêt, enfin bon. Mmh. L'an prochain, ça va être différent. On aura l'Open de France, le Scottish Open, et puis bien sûr le British qui est le top du top. Donc c'est vrai que nous avons de grandes chances l'an prochain d'avoir des Américains. Surtout si le dollar reste faible, mmh. et une dotation de 4 millions d'euros en dollars, ça fait pas loin de 6 millions de dollars.
Ouais.
Ça fait une grosse, grosse dotation.
Oui, absolument.
Donc ça va attirer beaucoup de monde, je crois, sportivement et économiquement.
D'accord. Donc, excellente nouvelle. En studio, Philippe, est-ce que tu aurais une question à poser au président de la fédération ?
Non, si je comprends bien, ça va être légèrement décalé dans le calendrier, alors ?
D'une semaine,
d'accord. C'est-à-dire donc, ça sera début juillet.
Ça va être décalé d'une semaine.
D'accord.
Ce sera début juillet.
Début juillet, c'est ça.
D'accord. Donc, médiatiquement, ça va bien se passer parce que ça tombe quand même sur une période aussi assez, assez riche, médiatiquement.
Tout à fait.
Ouais.
Médiatiquement, ça tombe sur une période même très riche. Et qui, peut-être, débouchera sur une organisation de la Ryder Cup.
Ah, ouais.
Monsieur le Président. Ah, la Ryder Cup, c'est un de mes rêves. Mais enfin, là, on parle de Ryder Cup. C'est aujourd'hui la première date disponible, c'est 2018.
Ouais.
Mais j'espère que si ce n'est pas 2018, ce sera après. Cela dit, le golf national est tout à fait à même de recevoir la Ryder Cup.
Et ça a été précisé en conférence de presse l'autre jour, et tout le monde était d'accord et favorable.
Tout le monde est d'accord, mais l'enjeu financier est tel que si au plus haut niveau de l'État on ne s'engage pas, on n'aura jamais la Ryder Cup. Ben, ça devient une affaire d'État. Si vous laissez l'Europe contre les États-Unis.
C'est ça.
Et de fait, il n'y a pas d'épreuve où on se frotte 12 Européens, 12 Américains. Mmh. Et l'enjeu est tel que les derniers Ryder Cup, que ce soit en Irlande ou en Écosse ou en Angleterre, on voit bien que ce sont les États maintenant qui se mobilisent, parce que les enjeux financiers sont tels que nos fédérations, on peut rien.
Et politique, on parle de...
Donc voilà, et comme en ce moment la France va prendre la présidence européenne, moi, je me dis, il y a peut-être une belle opportunité de lancer quelque chose pour 2018. Voilà.
Quelques petits ballons. D'accord.
Voilà.
Bien, écoutez, Monsieur le Président, Président heureux encore une fois, merci d'avoir participé à cette émission. Et comme chaque année, du reste, hein,
chaque année,
vous répondez présent.
Avec plaisir, oui.
Voilà. Et bien, nous aussi, on est contents, RVE, d'être présents sur ce grand événement.
Bien sûr.
Et j'espère que si l'année prochaine, si les Américains sont là, et ben nous on sera présents aussi.
Oui, mais j'en suis convaincu.
Merci encore.
Voilà, Philippe, ce que vous pouvez dire ce matin sur l'Open de France à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je crois que on peut encourager tous les spectateurs qui ont envie d'un spectacle important, époustouflant, eh bien, à venir ici. Ils vont se régaler cet après-midi.
Très bien, ben, le rendez-vous est pris. Puis encore merci donc au président de la Fédération française de golf, Jean-Michel.
Je lui transmets ça.
Voilà, ok, merci beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, on a été gâtés hein, pour cette dernière émission de la saison. Je vais en profiter. Sinon, je vais remercier donc tous les invités qui sont venus cette saison, qui ont répondu présent à notre appel hein, dans les différentes émissions, Tribune Sport, Tribune Foot et puis Tribune Rugby, et puis ceux qui s'étaient engagés, les quelques rares qui se sont décommandés, tant pis pour eux, ils ont raté quelque chose, voilà. Et puis on remercie aussi les techniciens, Jérémy, Jean-Marc et puis Christian, qui ont été aux manettes donc tout au long de cette saison, au cours de nos différentes émissions. On se retrouve d'ailleurs le dimanche 14 septembre. Donc, dernier petit mot, 30 secondes chacun pour eh bien dire comment vous voyez la saison prochaine pour le foot français. On va aller au Mondial 2010 ?
Oh bah, je pense que oui. On a des joueurs, on a beaucoup de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs. Et si on arrive à faire un bon amalgame, oui, il n'y a pas de raison.
Oui, je suis pareil. Moi, je pense que oui, on devrait y aller.
Moi, je pense qu'on n'ira pas.
Eh bon, on verra. On reparlera de tout cela. Merci pour votre fidélité hein, tout au long de cette saison. On a été ravis de la passer avec vous. Et de toute façon, on ne part pas complètement en vacances puisqu'on se retrouve sur le Tour de France. Et puis les Jeux Olympiques. Merci Daniel. À très bientôt.
Oui, à bientôt.
Merci. Au revoir.
Au revoir.